Chapitre 11. La famille Chinnery, Viotti, Windsor, Hampton Court, Herschel, Bain, la duchesse d'Orsette, Madame de Vaudreuil, Monsieur le duc d'Orléans, Monsieur le duc de Montpensier, la margrave d'Anspach, Stowe, Warwick. Quoique le bon accueil qu'on voulait bien me faire m'ait engagé à rester près de 3 ans à Londres, quand je ne comptais d'abord y passer que 3 mois, le climat de cette ville me semblait fort triste. Il était même contraire à ma santé et je saisissais toutes les occasions d'aller respirer dans les belles campagnes de l'Angleterre où du moins je voyais le soleil. Très peu de temps après mon arrivée, je débutais par aller passer 15 jours chez Madame Chinnery à Gilwell, où se trouvait le célèbre Viotti. La maison était de la plus grande élégance et l'on m'y fit une réception charmante. Lorsque j'arrivai, je vis la porte d'entrée ornée de guirlandes de fleurs entrelacées dans les colonnes. Sur l'escalier, qui était garni de même, de petits amours en marbre, placés de distance en distance, portaient des vases remplis de roses. Enfin, c'était une féerie printanière. Sitôt que je fus entré dans le salon, 2 petits anges, le fils et la fille de Madame Chinnery, me chantèrent un morceau de musique charmant que cet aimable Viotti avait composé pour moi. Je fus vraiment touché de cet accueil affectueux. Aussi, les 15 jours que j'ai passés à Gilwell ont-ils été pour moi des jours de joie et de bonheur. Madame de Chinnery était une très belle femme dont l'esprit avait beaucoup de finesse et de charme. Sa fille, âgée alors de 14 ans, était surprenante par son talent sur le piano, en sorte que tous les soirs, cette jeune personne, Viotti et Madame Chinnery, qui était très bonne musicienne, nous donnaient des concerts charmants. Je me souviens que le fils de Madame Chinnery, quoiqu'il ne fût encore qu'un enfant, avait une véritable passion pour l'étude. On ne pouvait lui faire quitter ses livres. Quand, aux heures de récréation, je lui disais « Allez donc jouer avec votre sœur ?»« Je joue !» répondait-il, et il continuait sa lecture. Aussi, à l'âge de 18 ans, ce jeune homme avait-il déjà acquis tant de considération qu'à la Restauration, il fut chargé de revoir tous les comptes des dépenses occasionnées par le séjour de l'armée anglaise en France. Je ne tardai pas à visiter les environs de Londres et ses courses employèrent tout le temps que je pouvais donner à mes plaisirs. À Windsor, où le roi faisait sa résidence, je n'admirai que le parc qui est fort beau. Le roi se plaisait souvent à se promener avec ses 2 filles sur une magnifique terrasse d'où l'on découvre une vue superbe et très étendue. Hampton Court est un autre château royal où j'ai vu des vitraux superbes. Ils sont extrêmement anciens et me parurent supérieurs à tous ceux que j'avais vus jusqu'alors. J'y trouvai aussi de fort beaux tableaux et de grands cartons dessinés par Raphaël que je ne pouvais trop admirer. Ces cartons étaient posés par terre, en sorte que je me tins à genoux devant eux si longtemps que le gardien s'en montrait surpris. On me fit voir aussi dans les galeries des armures qui remontent au temps les plus reculés, puis dans les jardins de magnifiques rosiers jaunes, enfin une vigne énorme enfermée dans une serre et qui, je ne sais quelle année, a produit 1500 livres de raisins. J'allais, avec le prince Bariatinski et plusieurs autres Russes, faire une visite au docteur Herschel. Ce célèbre astronome vivait fort retiré à quelque distance de Londres. Sa sœur, qui ne le quittait jamais, l'aidait dans ses recherches astronomiques, et tous deux étaient dignes l'un de l'autre, autant par leur savoir que par leur noble simplicité. Nous trouvâmes près de l'escalier un télescope d'une si grande dimension que l'on pouvait se promener dans l'intérieur. Le docteur nous reçut avec la cordialité la plus obligeante. Il eut la complaisance de nous faire voir le soleil dans un vert brun en nous faisant remarquer les 2 taches qu'on y découvre, dont l'une est assez étendue. Puis, le soir, il nous montra la planète qu'il a découverte et qui porte son nom. Nous vîmes aussi chez lui une grande carte de la Lune, très détaillée, où sont représentées des montagnes, des ravins, des rivières, qui rendent cette planète semblable au globe que nous habitons. Enfin, tout le temps de notre visite se passa sans un moment d'ennui et mes compagnons russes, Adélaïde et moi, nous fûmes charmés de l'avoir faite. On ne saurait parler des environs de Londres sans se rappeler plusieurs beaux lieux où les Anglais vont prendre des bains. Matlock, par exemple, offre tout à fait l'aspect d'un paysage suisse. La promenade est bordée d'un côté par des rochers du plus bel effet, couverts d'arbustes colorés. De l'autre, des prairies magnifiques. Cette végétation de l'Angleterre, qui est vraiment admirable, tout présente un coup d'œil ravissant aux amateurs d'une belle nature. Je me souviens d'avoir suivi les bords d'un ruisseau si joli, si limpide, que je ne pouvais le quitter. Tunbridge Well, où l'on prend aussi des bains, est de même un endroit fort pittoresque. Il est vrai que si l'on se délecte le matin en parcourant ces beaux environs, le soir on s'ennuie beaucoup dans les assemblées qui sont très nombreuses. On se réunissait pour les repas, et après le souper, comme après le dîner, tout le monde se levait pour chanter le God Save the King, prière pour le roi, qui me touchait jusqu'aux larmes par le triste rapprochement qu'elle me faisait faire entre l'Angleterre et la France. Brighton était plus renommé pour ses eaux que Tunbridge Well et Matlock. Brighton, où le prince de Galles avait alors fixé sa résidence, est une assez jolie ville située en face de Dieppe, de laquelle on peut voir les côtes de France. À l'époque où je m'y trouvais, on craignait en Angleterre une descente des Français. Les généraux ne cessaient de passer en revue la garde nationale, qui était continuellement en mouvement, battait le tambour et faisait un bruit d'enfer. J'ai fait à Brighton des promenades délicieuses sur les bords de la mer. J'y fus témoin un jour d'un effet très extraordinaire. Ce jour-là, le brouillard était si épais que les vaisseaux éloignés de la côte nous paraissaient suspendus en l'air. Je voulus aussi visiter la ville de Bath. On me l'avait vantée comme celle de l'Angleterre où l'on s'amuse le plus, et je retrouve une lettre que j'écrivis à mon frère à mon retour de cette course. Londres, ce 12 février 1803. Il y a quelques semaines, mon bien bon ami, que je dois te répondre. Ne m'en veux point, je t'en prie, car je ne puis te dire combien j'écris peu, tant les jours sont courts. Les soirées, en revanche, sont bien d'une longueur assommante, et si d'écrire aux bougies me fatiguait moins les yeux, je t'aurais envoyé des volumes. Je vois que tu es inquiet de la manière dont je supporte les brouillards et l'odeur du charbon de terre. Quant à ce dernier, j'y suis tout à fait accoutumé, au point que je ne le sens plus. Je préfère même à présent ce feu au nôtre. Pour ce qui est de l'air épais et lourd qui m'enveloppe, je ne pourrai jamais m'y faire. D'abord, on n'y voit pas, et tu ne saurais imaginer combien cette teinte sombre, noire, obstrue les idées. Ce crêpe sale me ternit l'imagination, et je trouve bien naturel que le spleen soit né ici. On m'assure pourtant que cette année est rare, qu'elle est une des plus claires, des plus belles que l'on ait vues depuis longtemps, ce qui me fait juger de ce qu'étaient les autres. À la vérité, l'air est bien plus pur dans les campagnes situées à 5 ou 6 miles de Londres. C'est un tout autre climat que je vais chercher le plus souvent possible. Je reviens de Bath, où je t'ai souvent désiré. C'est une superbe ville dont l'aspect est noble et pittoresque. En arrivant à 1 mile en deçà de ses murs, on aperçoit des deux côtés de la route des montagnes très élevées. À gauche, c'est en Bath, et l'on voit se détacher sur le ciel de grandes lignes de maisons, des palais, des cirques grandioses, tous bâtis sur le plus haut des monts. Le coup d'œil est vraiment magique, théâtral. Je croyais rêver et j'ai pensé à Ménageau. Il aurait beaucoup joui de ce spectacle, car bien que l'architecture de ces monuments ne soit pas de bon goût, de loin l'effet est immense. Le seul inconvénient que présente une ville bâtie de cette manière, c'est qu'on n'y peut faire un pas sans monter ou descendre. Mais il faut bien payer un peu le plaisir des yeux. Dans le bas de la ville, les places, les rues sont du plus grand genre et de chaque coin de ces rues, on découvre des sites superbes. Enfin, pour te rendre la sensation que la vue de Bath m'a fait éprouver, je te dirai que je croyais être dans une ville des anciens Romains. C'est bien certainement la plus belle du royaume. Je l'aime d'autant plus que c'est une cité bâtie à la campagne. Aussi, l'air qu'on y respire est-il parfumé. Bath est chaque année le rendez-vous des coryphées fashionable, ou si tu le préfères en bon français, des élégants des deux sexes. On y prend des bains chauds naturels, mais surtout on y donne des bals, des concerts et des routs, dont la plupart ont lieu dans les salles publiques. On se réunit là 500 ou 600 personnes et d'ordinaire on s'y étouffe ou bien la salle est presque déserte. Il n'existe pas dans le grand monde d'intermédiaires, en cela comme en beaucoup d'autres choses. Dans un de ces concerts, j'ai entendu Madame Krumholz qui joua de la harpe parfaitement. Quoiqu'elle soit petite et qu'elle ait l'air fort délicat, son jeu a tout autant de force que d'expression. Après le concert, on soupa dans une très grande salle à manger dont les longues tables, assez étroites, ressemblaient à celles d'un réfectoire. J'étais avec Madame de Beaurepaire et nous prîmes place à côté de très vieilles et très laides Anglaises. Je présumais, avec raison, qu'elles étaient du nombre de celles qui ne quittent point leur province où elles conservent la morgue gothique. Car les grandes dames de Londres et les Anglaises qui ont voyagé sont aimables et polies, tandis que nos voisines, dès que nous fûmes assises, nous tournèrent le dos avec un certain air de mépris. Nous étions résignés à supporter le dédain de ces vieilles femmes quand un Anglais de leur connaissance s'approcha d'elles et leur dit quelques mots à l'oreille qui les engagèrent aussitôt à se retourner et à nous témoigner plus d'aménité. Je suis resté 3 semaines à Bath. On m'avait tant assuré que je m'y amuserais infiniment que je m'y attendais à retrouver là les délices de Capoue. Il s'en est bien fallu, vraiment. Ces délices se sont réduites au plaisir que j'avais de passer ma matinée à grimper sur les montagnes. Encore n'en ai-je joui que bien rarement, attendu qu'il n'a presque pas cessé de pleuvoir. Du reste, je me croyais en automne plutôt qu'en hiver. Point de neige, point de froid, beaucoup d'arbres verts, ce qui prolonge la belle saison et nous donne la douce illusion du beau temps. Écris-moi bientôt et ne compte pas avec moi. Adieu, mon cher ami. Peu de temps avant d'aller à Bath, j'avais été passer quelques jours au château de Knowle, qui, après avoir appartenu autrefois à la reine Élisabeth, appartient aujourd'hui à la duchesse Dorset. C'est devant la porte d'entrée de ce château que j'ai vu 2 gros ormes qu'on m'a dit avoir plus de 1000 ans et qui pourtant verdoyaient encore, surtout vers leur sommet. Le parc, dont l'extrémité touche à une forêt, est extrêmement pittoresque. Le château renferme de fort beaux tableaux. Les meubles sont encore les mêmes qu'au temps d'Élisabeth. Dans la chambre à coucher de la duchesse, les rideaux du lit sont tout parsemés d'étoiles d'or et d'argent, et la toilette est en argent massif. La duchesse Dorset, qui était fort riche, avait épousé le chevalier de Wilford, que j'avais connu ambassadeur d'Angleterre à Pétersbourg. Celui-ci ne possédait aucune fortune, mais il était fort bel homme, il avait surtout l'air noble et distingué. La première fois que nous nous réunîmes tous pour dîner, la duchesse me dit « Vous allez bien vous ennuyer, car nous ne parlons pas à table. » Je la rassurai sur ce point en lui disant que telle était aussi mon habitude, ayant presque toujours mangé seule depuis bien des années. Il faut croire qu'elle tenait prodigieusement à cet usage, car au dessert, son fils, âgé de 11 ou 12 ans, vint près d'elle et à peine lui adressa-t-elle quelques mots. Enfin, elle le congédia, sans lui donner aucune marque de tendresse. Je ne pus alors m'empêcher de songer à ce qu'on rapporte des Anglaises, qu'en général, leurs enfants devenus grands, elles s'en occupent fort peu, ce qui a fait dire qu'elles n'aiment que leurs petits. J'avais revu à Londres l'aimable comte de Vaudreuil. Je le trouvais bien changé, bien maigri. Tout ce qu'il avait souffert pour la France l'avait accablé. Il s'était marié en Angleterre à sa nièce, que j'allais voir à Tutlam, où elle s'était établie. Madame la comtesse de Vaudreuil était jeune et jolie. Elle avait de fort beaux yeux bleus, un visage charmant et de la plus grande fraîcheur. Elle m'engagea à venir passer quelques jours à Tutlam, ce que j'acceptai, et pendant le temps que je fus chez elle, je fis le portrait de ses 2 fils. Monsieur le duc d'Orléans et ses 2 frères habitaient fort près de là. Le comte de Vaudreuil me mena faire une visite au duc d'Orléans, qu'il avait particulièrement distingué. Nous trouvâmes ce prince, qui faisait ses délices de l'étude, assis à une longue table couverte de gros livres, dont un était ouvert devant lui. Pendant notre visite, il me fit remarquer un tableau de paysage fait par son frère, le duc de Montpensier, avec lequel je fis aussi connaissance pendant mon séjour chez Madame de Vaudreuil. Quant au plus jeune de ces princes, le duc de Beaujolais, je n'ai fait que le rencontrer dans une promenade. Il m'a paru assez bien de visage et d'une grande vivacité. Le duc de Montpensier venait quelquefois me prendre et nous allions dessiner ensemble. Il me conduisit sur la terrasse de Richmond, d'où la vue est superbe. De cette hauteur, on domine une grande partie du cours de la rivière. Nous parcourûmes aussi la belle prairie où se trouve encore le tronc coupé de l'arbre sous lequel s'asseyait Milton. C'est là, m'a-t-on dit, qu'il composait son poème du paradis perdu. J'aurais bien voulu que l'on eût conservé cet arbre, seul témoin de si grandes pensées. Mais il ne reste que la place. En tout, les environs de Tutelame étaient fort intéressants, le duc de Montpensier les connaissait à merveille, et je me félicitais qu'il fût devenu mon cicérone, d'autant plus que ce jeune prince était extrêmement aimable et bon. Je m'étais engagée à faire le portrait de la margrave d'Anspach, qui vint me prier de passer quelques jours chez elle, à la campagne où je lui tiendrai ma promesse. Comme on m'avait dit que la margrave était une femme très bizarre, qui ne me laisserait pas tranquille un moment, qui me ferait réveiller tous les matins à 5 heures, et mille autres choses aussi insupportables, je n'acceptai son invitation qu'après avoir fait avec elle mes conditions. Je demandai d'abord une chambre où je n'entendisse aucun bruit, désirant dormir assez tard. Ensuite, je la prévins que si nous faisions ensemble quelques courses, je ne partais jamais en voiture et qu'en outre, j'aimerais à me promener seule. L'excellente femme consentit à tout et me tint religieusement sa parole, au point que si par hasard je la rencontrais dans son parc où elle était souvent à la bourrée, ainsi qu'aurait fait un homme de peine, elle feignait de ne point me voir et me laissait passer sans me dire une seule parole. Soit que l'on eût calomnié la margrave d'Anspach, soit qu'elle eût la bonté de se contraindre pour moi, je me trouvais bien pendant mon séjour chez elle, que lorsqu'elle m'invita à venir la voir dans une autre campagne qui lui appartenait aussi et qui se nommait Bernheim, je n'hésitais pas à m'y rendre. Là, le parc et le château étaient beaucoup plus beaux qu'à Amersmoort, et j'y passais le temps d'une manière fort agréable. Des soirées charmantes, spectacles, musique, rien n'y manquait, si bien qu'ayant promis d'y rester 8 jours, j'y passais 3 semaines. Je fis aussi avec la margrave plusieurs courses en pleine mer. Nous allâmes une fois débarquer à l'île de Wight, qui est élevée sur un rocher et rappelle la Suisse. Cette île est renommée pour les mœurs douces et paisibles de ses habitants. Ils vivent tous là, m'a-t-on dit, comme une seule famille, jouissant d'une paix et d'un bonheur parfait. Il se peut que, depuis, un grand nombre de régiments ayant fréquenté cette île, elle ne soit plus la même sous le rapport dont je parle. Mais il est de fait qu'à l'époque où je l'ai visitée, tous ceux qui l'habitaient étaient bien vêtus, avaient l'air affable et bon, et ne paraissaient pas atteints par la contagion des grandes villes. Outre l'aménité que je remarquais dans la population, le paysage était si ravissant que j'aurais voulu passer ma vie dans ce beau lieu. L'île de Wight et l'île d'Ischia, près de Naples, ont pu seules me faire éprouver ce désir. Ces promenades sur l'océan me plaisaient beaucoup et nous les renouvelâmes assez souvent. La margrave, un jour, fit arrêter son bâtiment en pleine mer et demanda des huîtres. Mais elles étaient tellement salées qu'il me fut impossible d'en manger. Il faut sans doute, pour que les huîtres deviennent bonnes, qu'elles ne soient pas aussi nouvellement pêchées. Ce que l'on peut faire de mieux à l'époque où Londres est déserte, c'est de courir les campagnes qui sont vraiment superbes. En sorte que j'acceptais avec beaucoup de reconnaissance les invitations qui m'étaient faites. Et je prenais mon parti sur la monotonie de cette vie anglaise qui ne pouvait être de mon goût après avoir habité si longtemps Paris et Pétersbourg. Je passai quelque temps à Stowe, chez la marquise de Buckingham. Le château était magnifique et rempli de tableaux des plus grands maîtres. Je me souviens surtout d'un grand portrait de Van Dyck, où je vois encore une main tellement belle et tellement en relief qu'elle faisait illusion. Le parc de Stowe, orné d'un temple, de monuments, de fabriques de toute espèce, est de la plus grande beauté. Le marquis et la marquise de Buckingham recevaient les Français avec infiniment de grâce et de bonté. Tous deux ont beaucoup secouru les émigrés distingués. J'en ai été instruite par le duc de Serran, qui a séjourné longtemps chez eux et qui était pénétré de reconnaissance pour ce noble couple. J'ai appris en France, à mon grand regret, que les dignes maîtres de Stowe étaient morts et que depuis le château avait brûlé, ainsi que tous les chefs-d'œuvre qu'il renfermait. On m'a dit que, lors de cet événement, Stowe appartenait à M. Hope, banquier. j'allais aussi à la campagne de Lornoiras. Quoique j'aie oublié le nom de ce château, je me souviens qu'on y est établi très confortablement et surtout qu'il y règne la propreté la plus recherchée. La sœur de Lornoiras, Lady Charlotte, qui est bonne et aimable, en faisait les honneurs avec infiniment de grâce. Il était bien malheureux que l'ennui fût là. Au dîner, les femmes sortent de table avant le dessert. Les hommes restent pour boire et pour parler politique. Il est pourtant vrai de dire que dans aucune des réunions où je me suis trouvée, les hommes ne s'enivraient. Ce qui me persuade que si cet usage existait en Angleterre, comme on le répète souvent, il n'y existe plus dans la bonne compagnie. Je dirais aussi que j'ai dîné plusieurs fois chez Lord Moiras avec le duc de Berry qui revenait de la chasse et que ce prince ne buvait jamais que de l'eau, bien loin de boire trop de vin, comme on l'a prétendu plus tard. Après le dîner, on se réunissait dans une belle galerie où les femmes sont à part, occupées à broder, à faire de la tapisserie, sans dire un seul mot. De leur côté, les hommes prennent des livres et gardent le même silence. Je demandai un soir à la sœur de Lord Moiras, par un beau clair de lune, si l'on ne pouvait pas aller se promener dans le parc. Elle me répondit que les volets étaient fermés et qu'on ne les rouvrait point par prudence, la galerie de tableaux se trouvant au rez-de-chaussée. Comme la bibliothèque, qui était magnifique, renfermait aussi des recueils de gravures, ma seule ressource alors était de m'emparer de ces recueils et de les parcourir, en m'abstenant, à l'exemple général, de prononcer une parole. Au milieu d'un cercle aussi taciturne, me croyant seul un jour, il m'arriva de faire une exclamation à la vue d'une gravure charmante, ce qui surprit au dernier point tous les assistants. Il est pourtant de fait que l'absence totale de conversation ne tient pas en Angleterre à l'impossibilité de causer avec agrément. Je connais beaucoup d'Anglais qui sont fort spirituels. J'ajouterai même que je n'en ai pas rencontré un seul qui fût un sot. La saison était trop avancée pendant mon séjour chez Lord Moiras pour que je pusse faire de longues courses à pied. Lady Charlotte me proposa de venir promener avec elle en voiture. Mais elle se servait d'une espèce de carriole, dure comme une charrette, dans laquelle je ne pus rester longtemps. Les Anglaises, en outre, se sont habituées à braver leur climat. J'en rencontrais souvent par des pluies battantes, dans des calèches ouvertes et sans parapluie. Elles se contentent alors de s'entourer de leur manteau, ce qui ne serait pas sans inconvénient pour une étrangère peu faite à ce régime aquatique. J'avais un grand désir de voir le château de Warwick que l'on m'avait beaucoup vanté. Je m'y rendis, espérant pouvoir le visiter incognito pour éviter toute gêne réciproque. Mais Lord Warwick, ne voulant recevoir que des étrangers connus, fit demander mon nom que je ne cachais point. Alors il vint au-devant de moi, me fit lui-même les honneurs de son château et me reçut en tout avec la plus obligeante distinction. Warwick est un château gothique comme celui de la duchesse d'Orsay. Mais son aspect est bien plus pittoresque et bien plus romantique. En traversant sa grande cour entourée de rochers, je replaçai dans ce beau manoir les nobles dames, des chevaliers avec leurs bannières. J'aurais désiré l'habiter moi-même, tandis que le château de la duchesse, quoique plus grand, est si triste qu'on se ferait conscience d'y placer quelqu'un. Après m'avoir présenté à sa femme, qui m'offrit à déjeuner et m'engagea à venir passer quelques jours avec eux, Lord Warwick me fit traverser son parc dans sa voiture. Ensuite, il me fit voir lui-même avec détail l'intérieur du château, qui est rempli d'antiquités, de tableaux, d'armures et d'objets précieux de tous les genres. Il me montra entre autres dans sa serre chaude une énorme coupe antique de la plus grande beauté. Cette coupe est en forme de jatte. Je présume qu'elle était placée chez les Grecs dans un temple de Bacchus, car les ornements se composent de grappes de raisin et de feuilles de vignes entrelacées. Il me fit voir aussi sur son clavecin les deux petits dessins de moi dont je parle dans mon second volume et que j'avais faits au charbon sur les dessus de porte de Lord Hamilton. Il me dit les avoir achetés fort cher à ce lord, à qui pourtant je ne les avais pas vendus. L'entrée du château de Warwick est taillée dans les rochers sur lesquels il est bâti. Le grand chemin passe dans le parc, ce qui anime cette magnifique habitation, dont le propriétaire me parut un excellent homme qui jouissait bien de tout ce qu'il possédait. Je visitai aussi Blenheim, dit Malbrou, où je vis de superbes tableaux et un très beau parc. Souvent, en revenant de ces différentes courses, je m'arrêtais sur des hauteurs à 4 ou 5 milles de Londres, espérant jouir de l'aspect de cette ville immense. Mais le brouillard qui la couvrait était toujours d'une telle épaisseur que je n'ai jamais pu apercevoir que la pointe de ses clochers.